Bonsoir et bon début de semaine à tous. Depuis quelques semaines, la ville de Goma ainsi que le territoire voisin de Nyiragongo font face à une insécurité grandissante caractérisée notamment par des tueries, vols et kidnapping. En moins d'une semaine, une dizaine de personnes ont été abattues dans la ville de Goma. La société civile du Nord Kivu et certains notables demandent aux forces de défense et de sécurité de tenir compte du contexte actuel et de redoubler d'efforts afin de sécuriser la population. Ces assassinats et vols se font la nuit tout comme pendant la journée, renseignent plusieurs sources sur place à Goma. Comment analyser cette situation? Que faire pour mettre fin à cette criminalité grandissante dans la ville de Goma et ses environs? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 15 avril 2024. Participe au débat Carline Zazou Kassivita. Avec moi dans ce studio, il est député national élu des Beni Territoires. Il est gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu. Monsieur Carline Zazou, bonsoir.
Bonsoir madame.
Aussi avec nous dans cette émission, Patrick Mundeke, membre du parti politique Ensemble pour la République. Il est conseiller de Moïse Katumbi et membre du collectif des notabilités du Nord Kivu. Patrick Mundeke, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Rigen Miviri prend également part à ce débat. Il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Rigen Miviri, bonsoir. Je crois qu'on a perdu la réalisation. Va essayer de le rappeler. Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Rex Moulenga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo, quand il y a des milliers de gens qui fuient la guerre pour s'abriter aux alentours de Goma. Il est difficile d'éradiquer l'insécurité car les armes circulent librement dans la zone et parmi les déplacés qui sont démunis. Kaikai Kiabasele, depuis Kalanga au Kasaï central, que les autorités du Nord Kivu fassent preuve de sens de responsabilité pour éradiquer la criminalité grandissante à Goma, car le gouvernement central a mobilisé et affecté beaucoup de moyens pour que la paix règne dans cette partie du pays, et ce grâce à la ferme volonté du commandant suprême. La population doit continuer à collaborer avec les forces de sécurité, car c'est aussi leur affaire. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, les activités socio-économiques ont repris en fin de matinée ce lundi dans la partie nord de la ville de Goma, ce après des manifestations populaires au lendemain d'un énième meurtre des civils attribué à un présumé militaire FARDC. C'était précisément dans le village de Turunga. Comment se présente le climat sécuritaire en ce moment dans la ville de Goma? Nous en parlons avec Bernard Danyangi et Guy Maté.
Bonsoir Bernardin, y a-t-il un bilan officiel des tueries de ces derniers temps dans la ville de Goma?
Bonsoir, en fait, il n'y a vraiment pas un bilan officiel annoncé jusqu'à présent par l'autorité, mais comme vous le savez, c'est depuis pratiquement mardi 9 avril que des meurtres de civils s'enregistrent avec plus d'intensité dans la ville de Goma. Ce jour-là d'ailleurs, trois hommes ont été tués par balle vers 23h sur l'avenue Kavumu au quartier Majengo. C'était par un militaire FARDC qui, d'ailleurs, a été condamné à la peine de mort samedi dernier par le tribunal militaire de Goma. Le militaire voulait ravir par force le téléphone de ces jeunes. Un jour après, c'est au moins quatre autres civils qui vont être tués et au moins huit autres personnes blessées lors d'un braquage d'une voiture appartenant à un commerçant au cœur de la ville. C'était donc mercredi 10 avril, dans la soirée, à la place dite entre présidents sur la route de Sake. Et ce même jour, c'est un corps sans vie d'un autre jeune homme qui a été retrouvé vers la mairie de Goma. Et donc, depuis ce jour jusqu'hier dimanche d'ailleurs, c'est chaque nuit qu'au moins une personne se fait tuer par des bandits armés dans la ville de Goma et les villages environnants.
Et comment l'autorité réagit par rapport à cela?
L'autorité provinciale, je veux parler du gouverneur militaire ad intérim, Peter Thierry Mwami, a annoncé depuis samedi l'interdiction de tout élément de groupe armé de circuler avec son arme dans la ville de Goma. La même mesure s'applique, selon ses dires, aux militaires incontrôlés. La mesure qui devrait être appliquée par les commandants des différentes unités, selon lui. Et pour sa part, le maire policier de Goma a présenté déjà jeudi une trentaine de présumés auteurs de crimes dans la ville de Goma, parmi lesquels au moins trois qui seraient impliqués, selon lui, dans le braquage du véhicule du commerçant jeudi à l'espace entre présidents. Il a beaucoup insisté sur le renforcement de la justice en ce moment de crise sécuritaire dans la ville.
Et du côté des populations civiles, comment réagissent-elles?
Oui, du côté des civils, on peut d'abord élever le fait que la société civile a déjà déploré à maintes reprises cette situation impliquant les militaires et aussi quelques combattants locaux incontrôlés dans la ville. Cette structure voulait que la justice soit faite en faveur des victimes et que des dispositions sécuritaires soient renforcées de plus en plus dans la ville. Mais ce qu'il convient aussi de noter, c'est qu'à présent, une forte psychose augmente de plus en plus dans la ville de Goma chez plusieurs habitants, surtout depuis l'incident de mercredi soir à l'espace entre présidents.
Merci beaucoup Bernardin.
Merci à vous, bonsoir.
Merci Bernardin Nyangui et Kim Maté, Caroline Zanzou, Cassie Vita. Je rappelle que vous êtes député national, élu des Béni Territoires et gouverneur honoraire de la ville, de la province, voilà, du Nord Kivu. Vous avez suivi dans cet élément qui vient de passer, c'est depuis le 9 avril que des meurtres des civils s'enregistrent presque chaque jour dans la ville de Goma. Qui tue à Béni?
Merci madame. Merci madame, je voudrais d'abord saluer mon frère Mundeke qui vit à Goma, qui est un ami que je connais, mais aussi les co-débatteurs Gens. En fait, répondre à la question de qui tient à Goma, il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut que les services de sécurité nous donnent avec exactitude les traces de ceux qui tuent. Ce qui est vrai, Goma est dans un contexte de guerre. Goma est sous pression de la guerre. Goma est isolé de toutes les voies d'accès et d'approvisionnement. Goma vit un drame humanitaire sans nom. Autour de Goma, il y a des milliers, des centaines de déplacés qui vivent dans des conditions humainement dramatiques. Autour de Goma, évidemment, il n'y a plus de commerce. Le circuit économique est pratiquement en panne. Ça veut dire qu'il y a rareté de la circulation de la monnaie et cela augmente la pauvreté mais aussi le banditisme. Il est vrai aujourd'hui dans un contexte de guerre qu'on ne peut pas se passer des idées de la similarisation de la vie de Goma. Il y a plusieurs militaires dans la vie de Goma. Cela implique un renforcement de mesures pour que la discipline militaire puisse s'imposer. Nous savons aussi il y a la circulation des armes incontrôlées, c'est la raison pour laquelle le gouvernement militaire a pris des mesures récemment pour interdire toutes les personnes qui peuvent circuler sans autorisation avec les armes. Cela vaut pour ce que nous appelons Ouazalendou, mais aussi certains militaires qui sont soit en détachement, soit en attente dans le cadre des opérations militaires.
Pensez-vous que cette mesure va marcher, Caroline Zanzou? Est-ce qu'on connaît le nombre de Ouazalendo qui sont dans la ville de Goma ou dans les environs de la ville de Goma? Est-ce qu'on connaît le nombre de militaires qui circulent, qui détiennent les armes dans la ville de Goma?
Normalement, dans la ville de Goma, on ne devrait pas permettre qu'il y ait la circulation des Ouazalendo. Parce qu'en fait, la ligne de front n'est pas dans la ville de Goma. On ne peut pas défendre l'objectif dans l'objectif. Et donc, je renforce cette idée et je cite, il faut que le gouvernement militaire s'implique et tous les commandants des unités. Parce qu'en fait, toutes les unités qui sont dans la ville de Goma ont des commandants. Il faut imposer la discipline, il faut interdire strictement la circulation des hommes en armes, il faut maintenir les patrouilles pour que la population puisse vivre dans la paix et la quiétude.
Mais comment ces Ouazalendo, par exemple, se retrouvent dans la ville de Goma? C'est-à-dire qu'ils ont fui le front pour venir inquiéter la population?
Il faut souligner un fait. Le fait d'être attaqué régulièrement par la force rwandaise, l'agression rwandaise depuis plus ou moins une vingtaine d'années, il s'est développé un mécanisme d'autoprotection dans la province du Nord Kivu. Il est vrai aussi que les Oisaliens doivent exprimer une sorte de résistance populaire. Mais nous souhaiterions que cette résistance soit vraiment patriotique. Il faut que les gens sachent que l'ennemi a besoin de plusieurs violations des droits de l'homme pour trouver des prétextes pour continuer à nous attaquer et faire un chemin libre pour captiver la sympathie de la population. Nous ne pouvons pas prétendre défendre la population en même temps faire le contraire. C'est la raison pour laquelle nous pensons que dans les solutions, il faut que les services de sécurité, surtout les gouverneurs militaires, puissent regarder cette question des Oisaliens avec beaucoup d'attention pour ne pas prêter le flanc aux rebelles. J'ai même vu aujourd'hui, pendant une semaine, la rébellion couverte par l'agression rwandaise a commencé à faire des communiqués de sympathie, de charme, pour chercher à expliquer qu'elle serait mieux que les autorités étatiques.
Alors, qui sont ces Oisaliens? Les Oisaliens, ce sont des miliciens ou ce sont des patriotes, comme on les appelle?
De toute façon, si on doit rester dans la sémantique, Oisaliens, c'est un mot swahili qui signifie patriote. Et tout patriote doit honorer l'image de l'État, doit défendre l'État, mais dans les normes, dans la règle. Le mot Oisaliens ne doit pas être un chèque à blanc pour commettre des exactions contre les civils, pour instaurer un régime de terreur. Je sais que la guerre nous impose certains impératifs, mais nous ne pouvons pas non plus nous permettre de commettre des actes qui vont donner un alibi à l'agression rwandaise de pouvoir conquérir la ville de Goma.
Alors certes, selon certaines informations que nous avons eues, la plupart de ces Oisaliens patriotes, entre guillemets, seraient des Maïmaï, des miliciens Maïmaï et tous les grands bandits de la ville de Goma qu'on aurait recrutés, à qui on a remis des armes pour aller combattre au front.
De toute façon, moi, je n'ai pas vraiment des informations sur qui on a recruté, mais je gérais la province. Notre approche, c'était de travailler pour qu'il n'y ait pas des armes qui circulent dans le milieu des civils. Il est vrai aussi, comme je vous ai dit, l'agression rwandaise a suscité les soucis de toute personne qui souffre des affres de la guerre depuis plus de 30 ans. Il faut souligner aussi qu'il y a toute une génération dans la province du Nord Kivu qui n'a vu que la guerre, qui n'a vu que leur maman, leur papa être déplacés comme dans les territoires de Rutshuru, au Tac et Beni, parce que la sécurité est partout. Ces gens n'ont vu que les affres de la guerre. C'est la raison pour laquelle, s'il faut considérer un avantage positif par rapport à ce terme Oisaliens, c'est la résistance. Et nous souhaiterions que cette résistance soit propre, soit respectueuse des droits humains et que nous défendions l'État. Il ne faut pas que les Oisaliens nous deviennent le bourreau de notre propre population.
Alors, on a suivi certains notables du Nord Kivu dire que les personnes qui seraient à la base de cette criminalité grandissante dans la ville de Goma seraient des militaires incontrôlés, mais aussi des rebelles du M23 ou des Rwandais qui y aurait porté la tenue FRDC et venir créer la psychose dans la ville. Bon. Est-ce qu'on peut dire que dans la ville de Nord Kivu, est-ce qu'on peut dire que l'ennemi est déjà dans la ville de Nord Kivu, dans la ville de Goma?
Sous réserve des services de sécurité, moi je ne pouvais pas affirmer parce qu'en fait la ville, ce qui est vrai, c'est une ville qui est déjà encerclée. Et sur le plan militaire, je crois qu'il y a une intelligence plutôt criminelle qui est poussée par l'ennemi pour faire des actes qui vont créer la rupture entre les autorités étatiques et la population. Je ne peux pas nier que cette intelligence criminelle est en train de fonctionner, connaissant le monde opératoire du Rwanda. Mais il faut que les autorités militaires qui sont dans la province Nord Kivu puissent tenir compte du contexte. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la discipline. Nous ne pouvons pas tolérer qu'on nous dise qu'un capitaine, un colonel de l'armée congolaise à tuer sur un paisible citoyen. Nous ne pouvons pas tolérer des actes comme ça. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un policier congolais puisse donner des arguments à la rébellion. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la discipline et nous insistons sur d'autres mesures drastiques qui maintiennent la discipline. Il ne suffit pas seulement évidemment de parler au commandant des unités, mais il faut veiller à ce que toute la réglementation militaire, un policier soit respecté à ce moment où nous sommes sous la pression de la guerre.
Patrick Mundeke, membre du parti politique Ensemble pour la République, vous êtes conseiller de Moïse Katumbi et membre du collectif de notables ou de notabilité, de la notabilité du Nord Kivu, vous qui vivez à Goma précisément. Dites-nous quelles pourraient être les motivations ou qu'est-ce qui pourrait expliquer cette criminalité, cette insécurité grandissante dans la ville de Goma.
Bonsoir encore une fois, madame. Bonsoir à mon frère et mon ami le gouverneur Carlos Zazoukasivita. Bonsoir à notre co-débatteur de Bouteli. J'espère qu'il est là. Ce qui explique la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. Le gouverneur Kali venait de donner une bonne partie. C'est dommage que le ministre Nzangi a choisi de fuir ce soir les débats, parce que lui, il a des réponses directes et claires. Il est
inacteur. S'il vous plaît, monsieur Mundeke, il n'a pas fui le débat. Vous êtes en face de monsieur Kali Nzanzoukasivita. On est en train de parler de la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Donnez-nous vos explications. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette insécurité?
Quand je regrette son absence dans les débats, parce qu'il est un des acteurs clés de ce qui nous arrive aujourd'hui en province du Nord Kivu. Vous savez, quand le ministre Nzangi arrive à Goma, il lance un appel au Wazalendo de tout le monde qui est dans la brousse de venir dans la ville. C'était avant qu'il y ait la loi sur les réservistes. C'était pour des motivations électoralistes, populistes. Et il a oublié que dans les gens qui étaient dans la brousse, il n'a pas demandé aux Wazalendo. Il y avait des vrais Wazalendo, les enfants du Nord Kivu qui sont dans la résistance, comme l'a souligné le ministre Carly, mais il y avait aussi les coupeurs de route, il y avait les kidnappeurs, il y avait les voleurs à main armée, qui étaient aussi dans la brousse et qui kidnappaient, qui tuaient les Congolais tous les jours. Et tous sont arrivés dans la ville de Goma, parce qu'il a lancé un appel qui vient dans la ville de Goma. Tous ont été armés. Vous allez même vous rappeler, la radio Capi, il y a trois semaines ou un mois, les porte-parole de FRDC à Beni, les porte-parole de FRDC à Beni Boutembo a dit ceci, qu'il y a des groupes qui se présentent comme des Wazalendo alors qu'ils sont proches des ADF. Ça veut dire quoi? Que les armes qu'on a données à certains faux Wazalendo, parce que les vrais Wazalendo défendent la patrie, et les faux Wazalendo sont même tombés dans les mains des ADF. Et du coup, dans la ville, vous pouvez voir des civils se promener avec les armes. Vous pouvez voir des militaires qu'on ne connaît pas l'origine, ils n'ont aucune formation. Quand le gouvernement a décidé de faire descendre tout le monde qui était dans la brousse dans la ville de Goma, est-ce qu'ils se sont posé la question, ils sont combien? Comment ils vont manger? Qui les paye? Quelle logistique ils ont? C'est ça qui nous fait des tours dans cette ville. Il y a une surmilitarisation exacte dans la ville de Goma. Il y a beaucoup, beaucoup de militaires, mais qui sont presque identifiés, les militaires. Mais les autres qui détiennent les armes ne sont pas identifiés. Combien on les paye? Qui les paye? Quelle formation ils ont? Quelle idéologie ils détiennent pour détenir les armes? Ça, il n'y a pas de réponse. Et ça aurait été mieux que le ministre Nzangi soit là pour qu'il peut-être donne des réponses aux Congolais, malheureusement.
Pour vous, Patrick Mundeke, ce sont les Wazalendo qui sont à la base de l'insécurité, de la criminalité dans la ville de Goma.
Non, je n'ai pas dit ça, parce que dans les Wazalendo, il y a des vrais Wazalendo qui défendent la patrie.
Disons les faux Wazalendo.
Il y a des bandits qui se sont infiltrés dans les mouvements des Wazalendo, qui sont entrés dans notre ville, et qui sont entrés de... Parce que les armes sont partout, madame. Les armes sont distribuées à tout le monde. Vous pouvez voir, il n'est pas étrange dans la ville de Goma de voir un civil se promener carrément avec des armes. Où est-ce qu'il a eu des armes? Qui est-il? En fait, un homme en tenue civile. Qui est-il? À l'heure où je vous parle ici, ce soir-là, madame, à l'Institut Faradja, dans la ville de Goma, on vient de braquer les gens à prendre des téléphones. C'est au cœur de la ville. On ne peut pas dire qu'il y a des Wazalendo qui endaient la ville. Parce qu'il y a des Wazalendo qui sont en train de mourir au front. Il y a des Wazalendo qui défendent la patrie, comme le gouverneur Kali l'a dit. Mais il y a des bandits qui ont profité de la naïveté et du populisme du gouvernement congolais pour des calculs électoralistes, pour détenir les armes et circuler librement dans la ville. Et ils endaient réellement le Congolais.
Ils circulent librement dans la ville au vu et au su des autorités provinciales.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, on vit aussi des autorités provinciales. Donc le problème, c'est le populisme, l'agitation avec laquelle ils ont géré la question des réservistes. Mais ce que le gouvernement ignore,
c'est que si cette question des réservistes n'est pas bien gérée, et elle peut apporter même le gouvernement lui-même. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan. Vous avez vu en Russie, une nation organisée avec le Wagner. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait dans les pays organisés comme la Russie. Parce qu'à un moment, la force devrait rester à celle de l'État congolais. Quand l'État s'est dessaisi d'une partie de ses attributions, qui est l'exercice de la force, on devrait être sûr qu'on contrôle ceux qui vont exercer ce travail de l'État, pendant combien d'États et comment ils vont faire. Mais si vous posez au gouvernement combien de Wazalendo il y a dans Goma, il n'y a personne du gouvernement qui peut vous répondre. Combien de Wazalendo il y a autour de Goma, personne du gouvernement ne peut vous répondre. Combien d'armes ils ont, comment vous ferez pour récupérer ces armes, ils n'ont pas ces plans-là. Et du coup, les conséquences, nous les payons. Il y a des Wazalendo de vrais qui se sacrifient pour la République, mais il y a beaucoup de faux qui sont en train de tricher et qui détruisent l'image même de Wazalendo et qui endeuillent les populations dans notre vie.
Le gouverneur intérim, Peter Chirimwami, a annoncé samedi l'interdiction de tous les membres de groupes armés de circuler avec son arme dans la ville de Goma. La même mesure s'applique aussi aux militaires incontrôlés. Pensez-vous que ça pourrait, un temps soit peu, calmer un peu diminuer cette criminalité dans la ville de Goma?
Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a annoncé sa mesure, des gens continuent à mourir. On continue à braquer les gens. Même à cette heure, on est en train de braquer les gens. Ce ne sont pas des mesures annoncées qui vont sauver la situation de Goma. C'est par contre la volonté du gouvernement de faire différemment les choses. Vous pouvez demander aux policiers de Goma combien d'équipes ils ont pour patrouiller dans la ville aujourd'hui. Ça ne peut pas être plus de 2. Vous pouvez demander aux policiers de Goma quelle logistique ils ont pour sécuriser la ville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils sont en difficulté de nous sécuriser. Ils sont combien? C'est aussi ça le débat. Parce que l'État devrait exercer son autorité. On devrait identifier tous les Wazalendo avec leurs commandants, avec leurs unités. Parce qu'ils viennent de divers horizons, de diverses souches. On devrait les identifier en amont, pas maintenant. Parce que maintenant, les armes circulent dans la ville. Comment ils vont faire pour les récupérer? Le gouverneur a beau parler, mais quand quelqu'un est un civique, il a eu la chance de tomber sur une arme, comment il va faire? Parce que la journée, il peut la cacher dans la maison, mais le soir, il sort avec son arme. Comment ils vont faire?
Les militaires qui sont là, qui
ont fait les réprimes, ou qui sont dans la ville de Goma, qui les encadre? Qui les suit? Ils vivent où?
Ces faux Wazalendo vivent au sein de la population. Pourquoi la population ne dénonce pas, par exemple, lorsqu'on voit un mouvement suspect ou des gens assez suspects dans les quartiers?
Dans le Capernaum qu'il y a aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qui est suspect, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on pouvait voir facilement quelqu'un en pleine journée, en tenue civile, se promener avec les armes, on vit aussi des autorités. Maintenant, on va dénoncer qui? Parce qu'on l'a vu, on a vu des civils marcher avec des armes. On a vu des gens marcher avec des revolvers. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. C'est une confusion entretenue pour des raisons propagandistes et électoralistes par ceux qui gouvernent la République aujourd'hui et qui coûtent cher à toute la ville de Goma. Mais normalement, ce n'est pas une mauvaise idée de faire appel à nos frères Wazalendo, des voyants qui se battent pour la République. Mais il fallait en amont les identifier, les capaciter un peu et les connaître qui sont-ils. Peut-être même les donner une tenue spéciale. Mais aujourd'hui, les civils se promènent avec les armes, les militaires se promènent avec les armes. On va dénoncer qui, on ne va pas dénoncer qui. C'est ça le débat.
Regan Mibiri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Comment vous analysez cette situation de Goma et ses environs?
Merci madame et surtout désolé pour ces difficultés à me connecter à temps. En fait, je voudrais quand même rappeler que la ville de Goma a une histoire de la violence urbaine. Et ce n'est pas nouveau, parce qu'on ne devrait pas aussi faire croire que c'est la première fois que Goma est sujette à cette violence. La violence urbaine fait partie de l'histoire de cette ville, mais il faut reconnaître en fait qu'il y a une nouvelle dimension que l'on voit avec les conflits autour de la ville. C'est la première fois qu'on le voit avec une si grande dimension qu'il y a beaucoup de personnes en armes, que ce soit des militaires, que ce soit des membres de groupes affiliés au FRDC, qui sont de plus en plus présents dans la ville. Donc cette surmilitarisation est nouvelle, mais aussi les incidents qui impliquent ces différentes personnes en armes, c'est aussi une nouveauté. Et cela, on le voit même la journée. La criminalité dans la ville de Goma avait comme caractéristique c'est que c'était de soit de braquage ou bien de vol à main armée. Et on voit que c'était essentiellement dirigé contre les biens et les personnes avec un intérêt pécunier forcément. Mais là, on comprend en fait qu'il y a aussi des choses qui commencent à se passer la journée et des gens qui assument d'être en tenue militaire et qui commettent des actes. Donc, il y a quand même une nouvelle dimension. On est arrivé à un autre palier par rapport à cette traditionnelle violence urbaine dans la ville de Goma. D'où la nécessité des autorités compétentes de regarder un peu plus cette nouveauté et de comprendre en fait qui sont les vrais acteurs. Parce que c'est très facile de désigner directement des acteurs, mais c'est plus difficile de reconnaître sa responsabilité, parce que malgré qui qu'il soit comme acteur de cette violence, celui qui est responsable de la sécurité en ville, ce sont les autorités congolaises. Donc, même s'il y a un groupe qui s'est infiltré dans la ville, c'est aux autorités congolaises d'identifier ce groupe, de mettre ce groupe hors de tout état de nuire. Mais ça ne suffit pas tout simplement de désigner et de ne pas mettre fin à cette violence. Je pense que c'est important que les autorités prennent cette question avec beaucoup de sérieux pour comprendre d'abord qui sont ces acteurs, quels sont les intérêts autour de cette nouvelle donne de la criminalité, pour que les bonnes mesures puissent être prises. Mais sinon, ça ne sert à rien de se déresponsabiliser en disant que voilà, c'est juste une fuite d'infiltration. D'ailleurs, ça pourrait avoir encore des travers qui seraient de mettre la population dans une psychose qui va même peut-être au-delà de ce qui existe déjà. Il y a une grande frustration des gens dans la ville, il y a une peur qui est perspective dans la ville, mais c'est important que les autorités puissent rassurer. Et en rassurant, c'est en montrant qui sont les vrais responsables et quelles sont les solutions qui sont déjà mises en œuvre.
Alors, Rigel Mibiri, on a instauré l'état de siège dans le Nord Kivu. La raison, c'était restaurer la sécurité dans cette partie du pays. Malheureusement, on a l'impression que ça amplifie plus l'insécurité que les résultats qu'on attendait, c'est-à-dire la sécurité dans cette province du Nord Kivu. Et certains, une partie de la population du Nord Kivu exige carrément la levée de cet état de siège parce que ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait.
Non, déjà, l'état de siège, c'est un autre débat et c'est clair que, voilà, si on fait le bilan de l'état de siège, il n'a pas réussi à mettre fin à la violence en général au Nord Kivu et d'ailleurs même en Ituri. Et c'est clair que le président lui-même l'a reconnu et la balance penche clairement vers la levée de l'état de siège. Mais si elle n'est pas encore levée, c'est une décision politique et c'est au président de tirer les conséquences. Mais dans la réalité des choses sur terrain, de la conséquence de cette mesure, mais aussi des résultats qu'on attend de cette mesure, qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, c'est clair que c'est le gouvernement congolais qui a cette responsabilité-là. Que ce soit des autorités militaires ou des autorités civiles, c'est l'État congolais, qui a cette responsabilité-là. Avant l'état de siège, il y avait la police. Après l'état de siège, il y a la police. Pendant l'état de siège, il y a la police. Est-ce qu'elle est en train de faire son travail? C'est là les vraies questions, en fait. Il y a le conflit armé qui est autour de la ville. Pendant très longtemps, Goma a été considéré comme un refuge pour beaucoup de gens qui faisaient face à la violence à Masisi, à Rutshuru et même dans les grands nord. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est des gens qui sont doublement affectés par le conflit. Ils ont été affectés par le conflit dans leur zone, mais quand ils viennent en Goma, qu'ils considèrent comme un refuge, là aussi encore, ils subissent de la violence. Si vous regardez aussi, peut-être parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment, parmi les victimes encore de cette criminalité urbaine, il y a beaucoup de déplacés. Et tout ça, on ne les dit pas assez. C'est très facile de pointer du doigt les ennemis plus loin, sans considérer aussi les responsabilités à l'interne. Je pense que le gouvernement doit prendre cette question et on doit dépolitiser un peu en fait cette question. C'est une question de survie pour beaucoup de gens. C'est une question de sécurité publique et ça touche tout le monde à la ville de Goma, d'où on devait taire les considérations politiques et plutôt aller sur la donne des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener la sécurité dans cette ville? D'où besoin aussi de la vigilance de tout le monde, mais aussi de bonnes informations, qu'on fasse de la recherche, qu'on ne puisse pas supposer directement à les responsables, parce que sinon on va adapter des solutions qui ne sont pas appropriés, tout simplement parce qu'on a choisi son ennemi sans forcément qu'on ne puisse pas être certain de ce qui se passe dans la vie.
Merci Rigen Miviri, vous êtes très nombreux à suivre cette émission sur la page Facebook de Radio Okapi et même la chaîne YouTube de Radio Okapi. Merci beaucoup chers internautes. Bertrand Moulindoua, depuis Goma, l'insécurité observée ces derniers temps dans la ville de Goma et d'une part due à la légèreté avec laquelle les autorités prennent cette question, malgré les décisions prises par le gouverneur interdisant les Wazalendo de circuler avec les armes, aucune d'elles n'est suivie car les militaires des Wazalendo continuent à circuler avec les armes. Bref, même si la rébellion du M23 vient d'être éradiquée, la grande menace restera celle des Wazalendo qui sème mort et désolation dans la ville de Goma. On va rester à Goma pour écouter cet auditeur qui nous appelle sur notre standard. Ça suit de Dr. Michael, voilà, Bolingo.
Dr. Michael Bolingo, Sebdesi Mahougo, à partir de la ville de Goma. Nous saluons les efforts du président de la République pour l'instauration de l'état de siège qui a montré sa force uniquement pour la non-prise de la ville de Goma. Malheureusement, nous continuons toujours à condamner l'intégration des soi-disant Wazalendo, les réservistes, qui ne sont pas bien pris en charge et qui malheureusement finissent toujours par se servir de leurs armes pour leur survie. À cet effet, je propose comme solution de limiter la circulation des Wazalendo et les militaires FRDC en divagation avec des armes pendant la journée, sauf qu'ils soient bien identifiés avec une mission bien déterminée. Deuxièmement, de prendre en charge ces Wazalendo par des gouvernements et doivent être suffisamment bien formés, car en eux, nous connaissons nombreux qui sont des anciens bandits, des anciens voleurs dans la ville de Goma, qui brusquement ont des armes, c'est-à-dire le mode de sélection était aléatoire. En dernier lieu, que le gouvernement cherche une solution pour finir la guerre. La population de Goma souffre et de la province en général. Je signale que chaque jour, nous comptons des cas d'enlèvements dans la ville de Goma. Que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Gouverneur Kassibita, que pensez-vous de ces propositions de Dr. Michael Bolingo depuis Goma?
Je dois avouer que je n'ai pas le monopole de réflexion quand il s'agit de questions de sécurité. C'est une question qui nous concerne, nous tous.
Non, donc, comme c'est un gouverneur, vous connaissez bien votre province.
Ce qu'il faut dire, les réponses aux questions sécuritaires doivent s'inscrire dans une approche prospective. Il est vrai aujourd'hui qu'à Goma, on parle de Wazalendo, mais moi je parlais de la discipline militaire. Je parlais d'autres mesures que les services de sécurité doivent prendre. Il ne suffit pas seulement évidemment d'identifier la question du Wazalendo, mais il faut dire que nous sommes dans un contexte de guerre et que toutes les stratégies sont mises en évidence aujourd'hui par la belligérance, surtout nos ennemis, pour couper les liens entre les autorités et la population. Nous ne pouvons pas négliger cela. Mais j'ai décrit ici un contexte d'une économie qui est pratiquement une économie faillie. Il y avait des gens qui avaient des emplois indirects dans les voies d'accès entre Goma et Massissi, entre Goma et Boutembo, entre Goma et Bounia, mais qui sont obligés aujourd'hui de vivre sous la pression de la guerre à Goma. Donc, il y a des solutions qu'il faut envisager à court terme, mais la meilleure solution aujourd'hui pour qu'il y ait une baisse de la criminalité, parce qu'il n'y a pas une ville, il n'y a pas un pays où il y a la criminalité zéro. Il faut que la guerre cesse. Il faut qu'on termine la guerre. Les forces armées de la République doivent faire tout pour arrêter la guerre. Évidemment, il y a des mesures temporaires que les pouvoirs publics en place à Province du Nord Kivu, y compris tous les systèmes de défense et de sécurité, doivent prendre. Il y a des mesures qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, des patrouilles nocturnes indignes. On doit faire peur aux bandits. Il y a des bandits qui n'ont rien à voir avec ni avec les Wazalendu, ni avec l'armée, qui profitent de cette situation. Mm-hmm. J'ai appris même qu'il y a des règlements de comptes, parce qu'il y a certains qui, les éléments des Wazalendu qui ont institué des tribunaux de faim et qui rassonnent la population. Et des fois, des cas comme ça créent des règlements de comptes et les gens s'entretuent. Donc, c'est un paramètre, c'est vraiment un contexte où il faut tenir compte de plusieurs paramètres pour arriver à sécuriser totalement la population.
Alors, vous plaidez pour le renforcement, pour renforcer le contrôle visant à empêcher la circulation incontrôlée des armes. Cette question des armes incontrôlées, en fait, comment on peut expliquer ça?
Parce qu'en fait, vous avez bien dit, le gouverneur militaire a pris une décision. Mais cette décision doit être exécutée. Les gens qui circulent avec des armes incontrôlées ne pourront avoir peur que s'il y a une forteresse militaire, une police militaire qui contrôle. Il faut que ces gens aient peur. Mais s'il n'y a personne qui fait de contrôle, qui fait de patrouille, ils circuleront avec les armes, ils vont braquer les gens, ils vont voler, ils vont continuer à tuer. Donc il faut qu'il y ait plus de mesures.
On a distribué des armes à n'importe qui.
Bon, je suis de ceux-là qui pensent qu'effectivement, la question des armes dans la région, c'est une question aussi vieille. Ça fait 30 ans que nous sommes en guerre, il y a plusieurs armes. D'abord, s'il faut partir de la période de 1994, où les réfugiés rwandais étaient entrés dans notre pays, il y a eu des armes qui sont entrées. Et jusque-là, on n'a pas pu tout récolter. C'est la raison pour laquelle, dans notre approche sécuritaire, il faut limiter la circulation des armes qui sont détenues par des personnes qui ne sont pas autorisées à les avoir.
Mais au hasard des notions, on a distribué des armes.
Je sais qu'il y a des résistants qui se sont mis aux côtés de nos FRDC sur la ligne de front. Il y en a, c'est là. Et notre co-débatteur, Patrick Mundeke, a insinué effectivement qu'il y aurait eu aussi d'autres qui se sont manifestés, évidemment parce que tout le monde ne souhaite pas que la ville de Goma tombe dans les mains de l'armée rwandaise.
C'est le gouvernement qui a donné ces armes-là.
Je ne peux pas assumer parce que je ne suis pas dans la chaîne de défense.
Merci, Carly Nzazu. Rwangolo associé, JR, bonsoir madame. Le fait de tuer les civils par les militaires en tenue civile ne peut pas être toujours l'effet des Wazalendo, sinon ce sont les mêmes militaires incontrôlés. Et la question qui me vient en tête, pourquoi ces militaires sont incontrôlés? Direction Bukavu cette fois-ci pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Kevarif, depuis Bukavu, province du Sud-Kivu. Insister sur l'encadrement tant administratif que social des militaires et des Wazalendo pourrait réduire à un degré près cette insécurité devenue chronique dans cette entité extrêmement menacée par l'encerclement des agresseurs et dont cette catégorie d'hommes en uniforme est la plus indexée. Pour être clair, plus les citoyens s'engagent bénévolement pour la défense de leur patrie contre les menaces, plus aurait été également le degré d'accompagnement de la part du gouvernement. On a toujours entendu dire que les FARDC sont au front. Mais combien de fois mangent-ils par jour? Comment sont-ils soignés? Les Wazalendo, par qui sont-ils organisés, ordonnés? Les fait-ils réellement? Ne condamnons pas les accusés seulement. Les autorités y sont pour beaucoup. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandements?
Patrick Mondeke.
Je suis tout à fait d'accord avec notre auditeur qui veut parler de Bukavu. Et je comprends que le gouverneur Kali est gêné de dire ce qu'il a dans son cœur, parce que les armes ne sont pas venues du ciel, les armes qui pillent ici. Les armes de 1994, il en restait combien? Les armes qui pillent ici sont des armes qui ont été récemment données aux gens sans étude en amont, et tout le monde, et y compris les bandits. Il y a des vrais Wazalendo que nous saluons ce soir, qui se battent pour les Congolais, mais qu'il y a beaucoup de bandits qui ont profité de cette cacophonie populiste du gouvernement, sans aucune stratégie, sans aucune planification, pour détenir les armes, et ils vont endayer le Congo, la partie est du Congo pendant très longtemps. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, les Wazalendo qui sont offrés, prenons les vrais, mais ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Comment on les encadre? Ils touchent combien? Qui les paye? Parce qu'en fait, vous appelez les gens pour se battre. Mais en attendant, ils ont des familles et des femmes. Les FARDC qui sont là, il y en a qui eux-mêmes ont des problèmes de toucher leur sol. Vous les mettez directement dans la soif de chercher à vivre sur le dos de la population. Et malheureusement, ça se passe avec une brutalité atroce qui cause des morts. Donc, nous devrions écouter les Congolais. Comme j'écoute depuis que l'émission a commencé, tous les Congolais sont en train de poser la même question. Qui encadre les Wazalendo? Le traitement des militaires congolais est comment? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de l'ordre. On ne peut pas gagner une guerre dans un Capharnaüm, dans un désordre comme ça se présente maintenant. La population est en coma là maintenant. Il n'y a personne qui est dehors. Tout le monde est dans la maison. Est-ce qu'elle est contente? C'est par contrainte que tous les gens se cachent maintenant. Nous sommes dans une situation où, si l'État ne prend pas la responsabilité, si l'État ne voit pas venir le mal, aujourd'hui c'est la population qui paye. C'est peut-être demain l'État lui-même qui devra payer. Au Soudan, vous êtes en train de voir entre Emeti et Al-Burhan, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement soudanais a entretenu les Wazalendo comme au Congo aujourd'hui. Et encore, les ont entraînés, ils les ont payés. Mais et parce qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Patrick Mundeke, pour mettre fin à cette insécurité ou cette criminalité dans la ville de Goma?
Ce qu'il faut faire, il faut reprendre le processus. Il faut tout reprendre en fait. Les élections sont passées, il y a la République qui nous regarde, il y a des morts que nous avons sur les mains. Il faut reprendre le processus, il faut identifier les gens qui doivent détenir les armes, clairement les identifier, subvenir à leurs besoins, les accompagner, et que ce soit les résistants ou que ce soit les FARDC, qu'on soit sûr qu'ils sont bien accompagnés, et les équiper, les donner des techniques qui les différencient des bandits, et contrôler leur chaîne d'approvisionnement. Enfin que nous puissions savoir que telle arme peut se retrouver à tel endroit par telle personne qui porte une telle tenue. Ça sera un début de la sécurité. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est que la police dans la ville de Goma doit être renforcée. Avec une surmilitarisation qu'il y a dans la ville de Goma, il nous faut beaucoup de policiers, il nous faut beaucoup de véhicules de policiers, il nous faut beaucoup de contrôles pour permettre à ce que les mesures du gouverneur, qui sont des mesures bien, il a la bonne volonté de pacifier la ville, mais ce n'est pas les Français qui vont pacifier la ville, c'est des actes qui vont finir par pacifier la ville. Donc il faut trouver des équipements corrects pour la police de la République, il faut doter de moyens, des automobiles à la police de la République, qu'elle soit capable d'agir et d'être partout, la police militaire et la police civile, quoi, qu'elle soit capable de patrouiller partout dans la ville, à tout moment, pour permettre à ce que les gens de Goma commencent quand même à vivre normalement. Et c'est possible. Merci. Avec un peu de volonté, c'est possible.
Merci à Prince Katoka qui nous suit depuis la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi. David Wedi, depuis Kinshasa, les Wazalendo sont des civils qui n'ont pas reçu la formation militaire donnée la grande ville de Goma Wazalendo, c'est une erreur grave. Voilà. Maître Rigel Miviri, nous sommes dans la partie solution. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette insécurité? Si on ne veut pas mettre fin à l'insécurité, au moins diminuer cette criminalité dans la ville de Goma. La population n'en peut plus.
Oui. D'abord, je pense qu'ils font caserner. que ce soit les militaires ou tout ce qui est affilié aux militaires, qui soit caserné, identifié. Parce que même dans le cas où il ne serait pas l'auteur de cette criminalité, il faut trouver des raisons de dire qu'ils ne le sont pas. Parce que tant qu'ils sont en divagation dans la ville, tant que les armes sont vues dans la ville avec des gens qui ne sont pas forcément habilités à les porter, forcément, les gens vont se poser des questions. Et les criminels qui ont toujours existé dans la ville de Goma vont en profiter. Donc, il faut savoir faire les distinguos. Et pour ça, il faut que ceux qui ont des armes soient casernés et qu'ils soient identifiés et identifiables. Ensuite, je pense qu'il faut avoir un vrai processus sur... comment résoudre la question de la sécurité, de l'insécurité urbaine. C'est à Goma, c'est aussi à Kisangani, c'est aussi à Kinshasa, qui est une question tout à fait particulière et parfois même à analyser différemment avec les conflits armés qui sont à côté. Aujourd'hui, on voit un lien entre ces deux phénomènes, mais quand même, le phénomène de la criminalité urbaine a existé indépendamment des conflits armés. Et la preuve, c'est que même dans des villes de la RDC où il n'y a pas de groupes armés à côté, il y a quand même de la criminalité urbaine. Donc, il y a nécessité de mettre encore une fois les autorités de base en avant dans ces processus, mais aussi la police de proximité, parce que c'est quand même bizarre que quand on parle de la ville de Goma, on parle beaucoup plus des militaires qu'on nous parle de la police. On sait que la sécurité à l'intérieur des frontières, elle est censée être l'apanage de la police. Mm-hmm. Mais là, de plus en plus, on parle beaucoup plus de l'armée que de la police. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Goma, on voit plus de militaires que de policiers. Merci. On a quasiment presque plus de policiers. Donc, c'est important. On a besoin de voir la police revenir dans son rôle et les militaires, qu'ils soient dans leur rôle de protéger l'intégrité territoriale de la République. Cela étant dit, ça veut dire aussi les frontières tout autour. Mais à l'intérieur, c'est la police qui devait avoir un plus grand rôle et avec la population, grâce aux autorités de base qui doivent collaborer avec la police.
Merci Erigène Miviri. Je rappelle que vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, en sigle Kaikai Kalumba depuis Kananga. Le sens de responsabilité des autorités et la franche collaboration de la population vont contribuer à la lutte contre la criminalité grandissante. Goma, qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Zanzo?
Ah, il est évident, on ne peut pas faire de la sécurité sans la population. La meilleure sécurité, c'est fait avec le peuple. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut, dans l'approche de la sécurité collective, capitaliser les sources de formation qui nous viennent de la population. Ça veut dire que les autorités, aujourd'hui, nous sommes en état de siège. C'est vrai, les militaires ont les rangs proches, mais ils doivent capitaliser les autorités de base, ils doivent faire des patrouilles. C'est pourquoi j'ai insisté sur des patrouilles, sur des descentes. On doit même expliquer le pourquoi de cette criminalité dans la ville. Il faut que la population comprenne pour que tout le monde s'implique dans la recherche des solutions.
Merci. Caroline Zanzou, députée nationale, élue des Béni Territoires et gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu. Patrick Mundeke, en 30 secondes, votre conclusion. Vous êtes membre du parti politique Ensemble pour la République et conseiller de Moïse Katumbi, membre du collectif de la notabilité du Nord Kivu. Vous avez la parole. 30 secondes.
Je pense que tout a été dit. Il nous faut identifier ces gens. Nous devons avoir beaucoup de policiers. Il y a beaucoup de roulages à Goma que des policiers pour sécuriser la population la nuit. Nous devons avoir des autorités de base doivent être mises à profit. Nous devons identifier tous les militaires et tous les vrais Ouazalendo et les faux Ouazalendo doivent être arrêtés. Et les armes doivent être contrôlées. Sinon, nous allons enterrer beaucoup de gens et pendant très longtemps.
Merci Patrick Mundeke, Dialogon Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Guy Maté, Donna Madimba, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Billy Betou, Hervé Vokia, Kéline Koutete à la présentation et à la coordination de ce magazine, supervisé par Martin Sebujangui. Une suite de programmes sur la fréquence de la paix.